Il est 2h à Paris, 3h à Gaza et Beyrouth. Le journal sur RFI.
Mathis Limano.
Au sommaire, nouveau bilan des victimes dans la bande de Gaza. Plus de 42 000 personnes tuées depuis le début de la guerre. Guerre qui se poursuit sans relâche. De nouveaux bombardements ont visé un hôpital au nord de l'enclave la nuit dernière. En Jordanie, cet incident aux abords de l'ambassade israélienne. Un homme a tiré sur la police, il a été abattu. Et puis en Roumanie, c'est un second tour surprise qui se dessine pour la présidence avec la présence d'un candidat pro-russe. Ils sont 42 211 à avoir trouvé la mort dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas qui ajoute que 100 000 personnes ont été blessées dans l'enclave. Les derniers hôpitaux sont en sursis, leur fonctionnement pourrait être entravé dans les jours à venir. La faute au manque de carburant dont l'entrée est entravée par Israël. À ce propos, écoutez Julie Faucon, coordinatrice médicale de Médecins Sans Frontières. Elle se trouve à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza.
Le réseau d'électricité fonctionne grâce aux générateurs. Les générateurs doivent être approvisionnés par de l'essence. Pour vous donner une explication vraiment pratique, s'il n'y a pas d'essence aujourd'hui et qu'on ne peut pas utiliser les générateurs dans les hôpitaux, ça veut dire qu'on aura des grandes difficultés à faire tourner des blocs opératoires, à avoir un supply en oxygène. Tout le matériel biomédical nécessite aussi de l'électricité. Ensuite, de façon plus générale, pour pouvoir amener les patients à l'hôpital, il faut avoir des ambulances. Et pour avoir des ambulances, il faut qu'elles puissent avoir de l'essence. En ce moment, il commence à faire froid à Gaza, il pleut. Et pour que les structures de santé puissent travailler dans des conditions correctes pour la prise en charge des patients, il faut qu'on puisse mettre du chauffage. Et de la même façon, ces systèmes-là fonctionnent avec des générateurs. Et c'est vraiment important que les générateurs, et de façon générale, les hôpitaux puissent continuer à fonctionner. La situation est terriblement compliquée et c'est vraiment une priorité.
Des propos recueillis par Oriane Verdier. Et au Liban, Israël a mené des dizaines de raids ce dimanche. Dernier en date, il y a à peine quelques heures, des colonnes de fumée s'élevaient au-dessus de Beyrouth et sa banlieue sud. Dans ce contexte de guerre au Proche-Orient, un incident a éclaté près de l'ambassade israélienne à Amman, la capitale jordanienne, où un homme a ouvert le feu sur des policiers. Reportage Mohamed Erami.
Un jeune homme dans la vingtaine a ouvert le feu sur des policiers jordaniens près de l'ambassade israélienne à Amman. L'attaque a fait 3 blessés parmi les forces de l'ordre. L'assaillant, âgé de 24 ans, a été tué sur place. La police jordanienne n'a pas donné d'informations sur ses éventuels liens avec des groupes terroristes. Selon l'expert en sécurité Omar Al-Radad, il semble que l'attaque soit un acte isolé, sans connexion avec des organisations armées.
Cette attaque présente 2 aspects. Il pourrait y avoir un lien avec des groupes pro-Hamas et pro-Hezbollah, ou bien elle pourrait avoir des motifs de vengeance contre la police. Mais ce sont les enquêtes qui devront en déterminer les raisons.
Le porte-parole du gouvernement, Mohamed Momani, a qualifié l'attaque de terroriste et a promis que les responsables seraient punis.
L'état de santé des policiers blessés lors de l'attaque est stable et nous espérons leur rétablissement rapide. En tant que gouvernement, nous les soutenons pleinement car ils ont agi dans l'exercice de leurs devoirs pour protéger la sécurité et la stabilité de la Jordanie.
Depuis plus d'un an, des manifestations se déroulent près de l'ambassade israélienne en soutien aux Palestiniens et contre la guerre à Gaza. L'ambassade, elle, reste vide après le refus de la Jordanie de permettre le retour du diplomate israélien à Amman. Mohamed Erami, Amman, RFI.
Depuis le 15 avril 2023, la capitale du Soudan, Khartoum, est l'épicentre des combats entre les forces armées soudanaises du général Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Emeti. Si l'ONU parle d'un bilan avoisinant les 25 000 morts, la guerre pourrait avoir fait dans tout le pays plus de 150 000 victimes civiles. Selon plusieurs enquêtes, elles sont menées notamment grâce à des images satellites. Tous les cimetières de la capitale sont pleins. Des fosses communes ont été creusées et des corps enterrés à même les maisons. RFI a obtenu un accès rare dans les zones contrôlées par l'armée régulière. Reportage aux abords du cimetière Ahmad Sharfi à Omdurman, la banlieue ouest de Khartoum. Notre envoyé spécial Elliot Brachet.
Dans le crépuscule, des hommes armés de pioches creusent des tombes. Oussama est venu enterrer son voisin, un menuisier tué ce matin dans un quartier résidentiel, cible des mortiers des forces de soutien rapide.
Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Au moins 7 obus sont tombés. Des enfants et des femmes ont été blessés. Mon voisin était en train de dormir sur un lit. L'obus lui est tombé dessus. Le lit a été pulvérisé et son corps démembré. On a dû le ramasser morceau par morceau.
Les funérailles s'enchaînent. Le doyen des fossoyeurs, Abedin Dirma, ne les compte plus.
On se retrouve à l'extérieur du cimetière. À l'intérieur, il n'y a plus de place. Alors on est venu creuser là, sur ce terrain vague. Ici, les jeunes venaient jouer au foot. Maintenant, il est couvert de tombes. Ces derniers jours, on enterre de plus en plus de morts, tués par des tirs d'artillerie. Aujourd'hui, on creuse depuis la prière du matin. C'est tous les jours comme ça. On fait entre 15, 20, 30 enterrements quotidiens. On ne dort plus. De jour comme de nuit.
À cause des combats qui compliquent les déplacements, la plupart des morts ne passent ni à l'hôpital ni à la morgue.
Quand il y a des batailles, des combats, les morts sont enterrés là où ils ont été tués. Les gens creusent à la va-vite pour ne pas que les cadavres pourrissent et répandent des maladies. Il y en a des tonnes, c'est impossible de compter. Les places, les maisons sont remplies de corps.
À l'extérieur du cimetière, d'autres familles attendent leur tour. Au loin, les combats font rage pour le contrôle de la capitale. Eliott Brachet, Khartoum, RFI.
En Roumanie, c'est un second tour surprise qui se dessine pour la présidence. Lui était attendu, le premier ministre pro-européen Marcel Ciolacu, au coude à coude avec le pro-russe Kalin Georgescu, une qualification inattendue. Le dépouillement des derniers bulletins est en cours. Sergio Miscoyou est professeur des universités en sciences politiques à la faculté d'études européennes de Cluj-Napoca en Roumanie. Pour l'heure, il note avant tout la grande défaite du candidat nationaliste Georges Simion, que beaucoup donnaient qualifié au second tour.
La grande surprise est Kalin Georgescu qui a raflé les voix de George Simion, pressenti depuis des lustres comme deuxième homme de cette élection. Donc c'est surtout une guerre fratricide qui nuit à une frange plus installée. Tout le monde faisait attention à George Simion. Les grands partis essayaient de contrecarrer son discours, et alors que entre-temps, Georgescu était capable de pénétrer dans les zones plus profondes et plus mécontentes. Donc le combat entre une extrême droite et une droite nationaliste a donné gain de cause à l'extrême droite. La droite nationaliste, notabilisée ou régulière, a un gros problème parce que son candidat arrive très probablement en quatrième position. Et pour l'élection parlementaire qui a lieu la semaine prochaine, le 1er décembre, elle sera en grande difficulté.
Et puis en Uruguay, jour de vote aussi ce dimanche pour le second tour de la présidentielle. C'est le candidat d'opposition de gauche, Yamandu Orsi, qui est donné vainqueur. Son rival de droite a pour sa part concédé sa défaite. Je vous propose de conclure ce journal en musique sur RFI avec une mise en bouche du choix musical de la Radio du Monde. Le maître ougandais de la soul, Michael Kiwanuka, et son quatrième album Small Changes, José Marinho.
À 37 ans, la voix d'or de Michael Kiwanuka porte au plus haut l'étendard de ses racines ougandaises et atteint des sommets sur ce disque. People keep talking about how pots don't melt. Ses parents ougandais ont fui le dictateur Idi Amin Dada. Exilé à Londres, il y bâtit sa carrière empreinte d'identité africaine. Son nouvel album est traversé d'influences rock des années 70 venues de Zambie et du Nigeria. Comme il le rappelait dans ses disques précédents, Michael Kiwanuka n'oublie jamais qu'il est un homme noir dans un monde de blanc et incite au rassemblement notamment sur cette chanson. En une dizaine d'années, l'Ougandais Michael Kiwanuka, chanteur mais aussi guitariste et compositeur, s'est imposé comme une figure majeure de la soul du 21e siècle.
Michael Kiwanuka avec cet album Small Changes. Il se produira le 28 février 2025 au Zénith de Paris. Bonne suite des programmes sur RFI.